The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
I thought the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. They beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha-ha-ha funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bien le bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Série Folie, 24e épisode déjà de la saison 5. Avec Aurore. Bonsoir, Aurore.
Bonsoir.
Nous sommes repartis pour une nouvelle aventure, on va parler séries télévisées, et puis on va pas changer les bonnes habitudes en commençant, si tu le veux bien, par la revue de deux séries en particulier, une nouvelle et une plus ancienne, qui ont pu égayer tes soirées ou tes journées les dernières semaines.
Voilà, exactement, et on va commencer tout de suite avec une nouveauté dont j'ai vu jusqu'à présent 5 épisodes, me semble-t-il, donc elle n'est pas finie, je ne sais pas te dire où ça va me mener, mais quoi qu'il en soit, déjà maintenant, je suis déjà pas mal accro à cette série-là, je dois te l'avouer, et donc c'est l'occasion donc d'en parler. Il s'agit de Here and Now de sur HBO. C'est une série qui est créée par Alan Ball. Alan Ball que l'on connaît quand on est sériephile et notamment pour les séries HBO, puisque c'est lui aussi qui était à l'origine de Six Feet Under et puis de True Blood, si tu te souviens aussi bien que moi.
Oui.
Donc voilà, on a quelqu'un de plutôt aguerri à l'exercice qui va nous proposer une fois encore un drama familial qui donc, sur certains aspects, ne va pas trop nous dépayser par rapport à Six Feet Under. On va avoir les parents, les enfants qui sont tous déjà plus ou moins adultes. On va se concentrer principalement sur leurs relations entre eux et puis en dehors aussi de la famille. Donc voilà, on part sur ce principe-là. Cette fois-ci, nous ne sommes pas dans une famille de croque-morts. Nous sommes dans une famille un petit peu particulière, puisque c'est une famille très très progressiste, en tout cas dans les idéaux, qui a décidé d'adopter un enfant de plusieurs nationalités, on pourrait même dire dans ce cas-ci de plusieurs couleurs, puisqu'on a une enfant plutôt d'origine africaine, un enfant d'origine asiatique et un enfant aussi d'origine sud-américaine, je dirais, et on rajoute à ça l'enfant naturel du couple qui est blanc, entièrement blanc, pour le père comme pour la mère. Donc voilà, j'essaie.
Lavé par Dash, donc.
Oui. Donc voilà. On est dans un contexte de forte remise en question de tous ces idéaux progressistes, un petit peu à la United Colors of Benetton, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on a ses parents qui sont un petit peu des anciens hippies, ou en tout cas des gens qui ont vécu plutôt avec ces idéaux-là à la base, avec des idéaux de transformation de la société par les mentalités, etc., qui se sont quand même largement embourgeoisés, hein. Ce sont pas du tout des personnes qui ont des petits moyens, puisque le patriarche est professeur d'université, il est professeur en philosophie morale, et il s'est fait connaître principalement pour un livre qu'il a écrit il y a bien une vingtaine d'années, qui se basait, me semble-t-il, justement, et c'est ce qui a donné le nom au titre, sur le « ici et maintenant », quoi. Sur l'idée qu'il faudrait se concentrer plutôt sur l'ici et maintenant que ce qui s'est passé avant ou ce qui se passera plus tard. Et la mère de famille travaille dans un lycée où d'ailleurs la petite dernière, la fille naturelle donc du couple, est encore scolarisée. Et elle fait quoi? c'est un petit peu compliqué. Elle essaie de favoriser la communication entre les différents acteurs de l'école pour que tout se passe bien. Le seul problème, c'est qu'on est dans un contexte politique qui a quand même pas mal changé par rapport aux beaux idéaux de l'époque, que Donald Trump est au pouvoir, que les idéologies, notamment suprémacistes, ont plutôt le vent en poupe, et donc c'est un petit peu difficile de se situer face à ces idéologies qu'on imaginait totalement d'un autre temps, et face à laquelle ces gens-là ne savent finalement pas trop comment se situer, quoi. Ils sont un petit peu dépassés, très clairement. Le pilote, je dois te l'avouer, m'a absolument déplu. J'ai détesté le pilote.
Tu as continué quand même.
Oui, mais il concentrait vraiment tout ce que je peux détester dans une série. Il y avait un côté très très artificiel dans cette famille composée comme ça des différentes couleurs de l'arc-en-ciel, qui avait quelque chose d'un peu énervant. Enfin, chaque personnage était relativement détestable, vraiment dans le pilote. Ça donnait pas envie. On avait beaucoup de mal à rentrer en empathie avec ces gens qui semblaient totalement faux dans leur manière de vivre. Donc voilà, j'avais pas du tout accroché. Malgré tout, comme tu le dis, j'ai continué, et je dois dire que dès le deuxième épisode, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ce qui a réussi, je crois, à me convaincre de continuer, c'est qu'il y a un petit élément un petit peu fantastique ou surnaturel qui intervient plutôt sur la fin du pilote, et qui est quand même intriguant, et qui m'a donné envie malgré tout d'aller voir de quoi il ressortissait. Donc voilà pour la trame. En gros, il y a un des enfants qui va commencer à avoir des visions, et des visions qui semblent rentrer en connexion avec d'autres personnages qu'on suit aussi dans la série, alors qu'au départ on ne sait pas trop quel va être le lien, mais on suit comme ça une famille, je ne me souviens plus, d'origine iranienne, je dirais, quelque chose comme ça, qui dans lequel on a le père qui a aussi tout un passé assez difficile avec la religion de son pays, avec les tortures qu'il a pu vivre là-bas, et tout ça ressurgit notamment en contact avec la famille dont on suit les aventures. Bon, quoi qu'il en soit, donc On va suivre tous ces personnages-là, les parents qui font tous un petit peu, tous les deux un peu une crise existentielle, crise de couple, crise existentielle, crise de quels sont les idéaux qu'on a laissé tomber, que sont-ils devenus, etc. Qu'est-ce que je peux encore en faire aujourd'hui? Chacun des enfants qui eux aussi doivent essayer de se situer dans une famille dans laquelle finalement ils ont été greffés un petit peu sans qu'on leur demande leur avis, et donc c'est pas forcément facile pour eux de trouver une place là-dedans, parce que tout ça est fait évidemment avec les meilleures intentions du monde, mais c'est pas pour autant que chacun ne porte pas ses propres blessures, ses propres problèmes, et donc on va avoir l'occasion d'un petit peu suivre ça, peut-être aussi l'incompréhension du fait, de certaines problématiques des personnes de couleur pour des parents qui eux sont blancs et qui n'ont donc jamais connu ces problèmes-là, par exemple. Et puis on va petit à petit découvrir, je crois, le thème principal de la série. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans les 5 premiers épisodes et qui finalement rentre totalement en résonance avec le titre. Ça va être vraiment la recherche de ce que le passé peut encore avoir d'important pour le présent, quoi. En quoi le passé ressurgit, en quoi le passé continue à nous travailler au jour le jour, etc. Et on voit que pour chacun des personnages, ça va se développer sous une forme différente, mais c'est toujours cette problématique-là qui semble être mise en avant. Et je dois dire que c'est assez intéressant. C'est un thème que j'ai pas forcément énormément vu traité, et donc jusqu'ici je suis plutôt convaincue. Alors évidemment, c'est pas une série que tu suis pour les aventures, hein. Il y a pas de gros suspense, même si, je l'ai dit, il y a un petit élément fantastique, un peu intriguant, où tu te demandes ce qu'il en est. La résolution n'est vraiment pas ce que tu vas chercher dans ce genre de série-là, mais c'est plus une sorte de voyage où on t'emmène et qui est plutôt plaisant, ne serait-ce que pour la réflexion qu'il te permet de développer tout au long du chemin où tu l'accompagneras, quoi. Voilà.
Reste à voir jusqu'où il va te mener, ce chemin.
Oui, mais j'ai vraiment l'impression que c'est bien parti, hein. On connaît le destin qu'ont eu Six Feet Under et True Blood précédemment. Je ne serais pas du tout étonnée que Here and Now fasse au moins 4 ou 5 saisons également. Jusqu'à présent, je ne vois vraiment pas pourquoi ça s'arrêterait plus tôt, en tout cas, parce que ça donne vraiment envie de continuer à suivre cette famille-là. Qui me paraît pas totalement hystérique et donc vite insupportable comme peuvent l'être d'autres familles, tu sais très bien,
oui, oui, je vois bien.
À qui je fais référence, mais qui ne paraît pas non plus exemple de vraies problématiques existentielles qui méritent d'être travaillées, quoi. Je dois t'avouer que pour le moment, j'ai même... Alors peut-être qu'à l'époque, je t'aurais pas dit ça, mais pour le moment, j'ai même une petite préférence pour la famille de Here and Now, et en tout cas pour les personnages, parce que c'est presque difficile de voir en eux une famille, tellement ils se cachent des choses, etc., que pour la famille de Six Feet Under, où il y avait un côté un petit peu... Un petit peu faux qui parfois me dérangeait. Donc voilà, à suivre, à voir où ça nous mènera, en espérant que ça nous mène très loin.
Parfait. Voilà pour la première série mise à l'honneur aujourd'hui.
Oui. Alors, la deuxième série dont je vais te parler, c'est une série française, figure-toi. Ça n'arrive pas souvent. Cette saison-ci, je crois même que c'est la première fois que je parle d'une série française. Comme quoi, tout arrive. Ça signifie pas que c'est la seule série française que j'ai vue cette saison-ci, mais... en tout cas, c'est la seule qui a vraiment retenu mon attention. Il s'agit de la saison 2 de Irresponsable. Mmh. Irresponsable, c'est une comédie qui est proposée par OCS, si je ne m'abuse, et qui nous fait suivre le parcours d'un trentenaire qui, suite à des déboires personnels, s'est retrouvé à devoir retourner vivre chez sa mère. Alors ici, je raconte un peu rapidement le début de la saison 1, hein, et qui va découvrir... En étant forcé d'aller travailler comme pion dans le lycée du coin, va découvrir qu'il a un fils qui a 15 ans. Donc évidemment, ça fait un choc quand on a soi-même 30, 31 ans. Et donc, toute la saison 1 tournait autour de cette nouvelle d'abord, et puis la manière dont il allait gérer cette nouvelle, la faire accepter également à sa mère, etc. Ici, on continue à la suite, hein, y a pas vraiment de saut dans le temps ou quoi que ce soit, on continue donc, il continue à être pion dans l'école et il va être forcé par les événements à prendre encore un peu plus de responsabilités, totalement malgré lui, puisque évidemment c'est dans le titre, mais clairement c'est un personnage qui n'a pas envie de grandir, qui est très bien dans le cocon qu'il forme avec sa maman, qui s'occupe un petit peu de tout pour lui et qui préfère fumer des joints avec les lycéens qu'il est censé garder qu'autre chose, quoi, hein. Donc là, il va être forcé de prendre conscience qu'il est quand même un adulte, quoi, et qu'il peut plus, le nier autant qu'il le souhaiterait. Alors, pour quelles raisons est-ce que cette série continue à m'interpeller? Mais parce que justement. Pour une série française, et vraiment j'insiste parce que malheureusement c'est très souvent le cas, c'est joué avec une justesse absolument exceptionnelle. Les textes, les dialogues sonnent totalement vrais. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir des vrais gens devant soi, et ça fait du bien parce que ça n'arrive vraiment pas si souvent que ça. Les acteurs sont excellents, comme je l'ai dit, donc les dialogues sont excellents, et on a un petit mélange de comédie et puis de situations touchantes pour les relations entre les personnages qui te rend... qui te font rentrer totalement dans le récit et qui te donnent envie de continuer à suivre ces personnages-là jusqu'au bout. Donc voilà, c'est vraiment une série que je recommande. J'avais adoré la saison 1 qui vraiment avait été un coup de cœur, alors que au départ ça fait un peu cliché, hein, le trentenaire attardé qui vit chez sa mère. On a déjà vu ça des milliers de fois, le mec qui veut pas grandir et qui va être obligé de grandir, enfin ça ça a été tellement usé ces derniers temps qu'on avait l'impression que c'était plus possible d'en faire quelque chose d'intéressant. Et là, grâce à l'interprétation des acteurs principaux qui ont été vraiment choisis de manière exceptionnelle, grâce au dialogue, grâce aux situations aussi, ça sonne parfaitement juste et on n'a pas l'impression d'être face à quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs, quoi. C'est vraiment, vraiment une histoire à part. Et donc, ça vaut la peine de la découvrir, notamment pour voir comment qu'on fait pour écrire des dialogues en français qui sonnent juste les gens. Voilà
comment on fait. Un petit coup de cœur donc pour toi. Bah, tu vas franchement titiller ma curiosité parce que je ne connais pas du tout cette série.
Ça donne envie. Oui, ça vaut la peine.
Ok.
Voilà.
À approfondir bientôt. Merci pour ces deux revues de début d'émission. On va revenir dans quelques minutes pour le sujet abordé du jour. Petite pause musicale tout d'abord.
Oui, on va s'écouter All Around the World de Lisa Stanfield, entendu dans American Crime Story.
I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow. Gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
De retour pour aborder le sujet du jour. Aurore, quel est-il ?
Alors, on va se demander si c'est le rôle des séries de nous dire la société, de nous raconter un petit peu ce que c'est la société. Alors, soit la société d'une époque quand il s'agit de séries historiques, soit notre société actuelle quand il s'agit de séries plus contemporaines. Voir, pourquoi pas, dire la société du futur. pour les anticipations. Hein,
évidemment.
Donc voilà, c'est la question qu'on va se poser. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu comme ça, au détour d'un commentaire dans un podcast quelconque que j'écoutais, que ben voilà, c'était le rôle des séries de nous dire la société d'une époque, que, si je me souviens bien, c'était à propos de la série American Crime Story, dont la saison 2, si tu t'en souviens bien, était diffusée il n'y a pas longtemps autour du meurtre de Gianni Versace. Tu t'en souviens, on en avait
tout
parlé,
fait.
Même si depuis, ben, je dois avouer que j'ai laissé tomber l'histoire qui m'a paru beaucoup moins intéressante que je ne l'espérais lors du premier épisode. Quoi qu'il en soit, donc, ben, la raison pour laquelle cette affirmation m'a interpellée au départ, c'est que forcément, elle me titillait en me disant « Ben non, c'est pas totalement vrai, quoi. Ce serait un petit peu réducteur de dire, voilà, le rôle des séries, c'est de faire ça et rien d'autre. » Principalement parce que, ben, on le sait tous, le rôle des séries, ben, avant tout, ça va probablement être de nous divertir, nous, les téléspectateurs, et puis pour ceux qui les produisent, ben, ça va être de se vendre, de fonctionner, hein, d'être un objet commercial performant, on pourrait dire ça comme ça. Donc, dans les deux cas, que ce soit le côté divertissement ou le côté commercial, la dimension raconter la société n'est pas véritablement une obligation pour que ça se réalise. On pourrait dire aussi qu'il y a un troisième pôle là-dedans qui serait le pôle plus du créateur, de l'artiste qui se cache derrière l'œuvre, même si on le sait bien dans les séries, ben, c'est rarement une personne seule, mais c'est plutôt toute une équipe. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même aussi une ambition pour cette équipe créative, et là on pourrait se dire que leur ambition, c'est plus l'expression de leur créativité, de faire quelque chose d'original, un truc qui leur ressemble, etc. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, on n'est pas en train de parler de la société. Dans aucun des trois pôles dont j'ai parlé, on est en train de parler de la société. Donc, ben, voilà, non, c'est pas le rôle des séries de nous dire la société, a priori. Il y a d'ailleurs dans les séries plein d'autres choses qui peuvent nous intéresser que le fait de nous dire quelque chose sur le fonctionnement de la société, quelle que soit l'époque. Il y a le récit en lui-même, hein, on peut simplement s'intéresser à l'histoire, à ses rebondissements, au suspense. Il y a tout le côté évasion qui va avec, on peut s'attacher aux personnages, on va pouvoir s'y intéresser plutôt parce que ça nous fait rire, tout simplement. Et donc, on continue à regarder cette série-là parce qu'on est sûr qu'on va passer un bon moment à rire avec les personnages, ou bien, au contraire, parce que ça nous fait pleurer, ça réussit à déclencher en nous des émotions qui sont peut-être tellement fondamentale qu'on a besoin de passer par la fiction pour pouvoir les ressentir une fois de temps en temps. Le simple critère esthétique, le plaisir de pouvoir voir de belles images, de voir une belle mise en scène, d'entendre éventuellement des dialogues ciselés, etc. Donc tout le critère de la beauté n'a pas grand-chose à voir non plus avec cette idée que les séries nous diraient la société. Et puis, bah, éventuellement, tout le caractère plus fantasmé, certaines séries vont pouvoir nous réaliser certains de nos fantasmes, voire nous permettre de nous purger de nos passions les plus inavouables, comme dans le principe de la catharsis. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, on pourrait se dire, ben non, les séries n'ont pas pour rôle de nous dire la société. Ce serait en effet totalement réducteur. Mais en même temps, on ne peut pas nier que quand une série a quelque chose à nous dire sur la société, c'est quand même une lecture très très enrichissante. Et donc si ça n'est pas son unique rôle, mais ça peut être un rôle des séries. Et au-delà même de dire ça peut être un rôle, mais je crois que c'est en fonction évidemment des qualités, toutes les séries ne le développeront pas avec la même pertinence, mais en tout cas toutes le font malgré tout d'une manière ou d'une autre, que ce soit conscient ou pas. Comment est-ce que ces séries vont nous dire la société de manière pas forcément consciente? Par exemple, le simple fait de nous présenter quelque chose qui paraît vraisemblable aux téléspectateurs de notre époque, mais ça nous dit ce qui, à notre époque, paraît possible ou pas possible, et donc ça nous dit quelque chose de notre société à nous. Il y a certaines choses qui, si on les avait mis en scène il y a 500 ans, par exemple, n'aurait pas du tout marché, on serait passé à côté en se disant « cette histoire est totalement irréaliste ». Imaginons par exemple que, je sais pas moi, il y a 500 ans, on écrive une fiction dans laquelle on a une immense fédération de pays qui s'appelle les États-Unis. À la tête de ce pays, il y ait un président qui soit un homme noir. Est-ce que ça aurait semblé réaliste à qui que ce soit? Est-ce que qui que ce soit aurait trouvé ça suffisamment intéressant et vraisemblable pour y adhérer? C'est pas certain du tout, quoi. Donc en bref, à chaque fois qu'on nous présente une série, si on y adhère, c'est que ça nous paraît quand même relativement proche de notre réalité à nous. Si c'est trop éloigné, on n'est pas capable de s'y accrocher. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va nous présenter aussi certains thèmes, certaines obsessions qui sont particulièrement au goût du jour actuellement. Si on est dans une période qui se pose énormément de questions, par exemple autour de l'usage des technologies, on va avoir des séries qui vont nous parler de ce thème-là, et on pourrait évidemment donner plein d'autres exemples. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la série, que ce soit une série qui nous représente le quotidien d'aujourd'hui, ou bien le quotidien d'hier, ou le quotidien de demain, quoi qu'il en soit, à chaque fois, on y injecte nos obsessions du moment, quoi, hein. Donc évidemment, les séries disent la société aussi par là, et puis elles disent la société aussi à travers les habitudes qu'elles mettent en scène, les évidences éventuellement, ne serait-ce que les vêtements que portent les personnages, la musique qu'on va entendre en arrière-plan, etc. Tout ça sont des marqueurs socio-historiques assez forts qui nous indiquent dans quelle société on se trouve, quoi. Donc voilà, quoi qu'il en soit, même si c'est pas toujours voulu, les séries nous disent quand même toujours un petit peu la société. Mais il y en a qui vont quand même un peu plus loin et qui la disent, on va dire volontairement. Il y a plusieurs manières de faire ça. Première possibilité, là je parle plutôt de séries historiques. Dans certaines séries historiques, on va avoir alors par exemple, imaginons, on a une série comme Mad Men ou comme Deadwood ou des séries comme ça, le fait de nous présenter la société de l'époque, ça remet en perspective notre société à nous. Et au minimum, ça nous dit quelque chose autant de ce que c'était la société avant, de ce que du parcours qu'on a parcouru, depuis. C'est le cas notamment justement dans la saison 1 de American Crime Story qui faisait particulièrement bien ça, puisque dans plusieurs épisodes, on traitait un thème en particulier. Par exemple, le thème du sexisme était traité dans un épisode, le thème de le rapport qu'on entretenait avec les personnes de couleur était aussi traité dans un épisode. Et donc, par petites touches comme ça, épisode après épisode, on nous donnait à voir une sorte de fresque de ce que c'était la société à l'époque. Donc, il y avait une véritable perspective, oui, sur la société de l'époque et qui nous renvoyait également à notre société actuelle. Donc, voilà. Évidemment, quand on connaît déjà l'histoire dans certaines séries historiques, si on connaît déjà l'histoire, mais ça va être encore plus flagrant que ce qui est mis en avant. Ce qui est intéressant, ça va être le portrait de la société qu'on nous présente, moins que le récit en lui-même qu'on connaît déjà. Deuxième cas dans lequel les séries vont aussi faire un effort pour nous dire la société, cette fois-ci c'est plus dans un contexte plus contemporain, réaliste ou proche en tout cas de notre réalité, où on a des situations dans lesquelles il y a totalement moyen de s'identifier, de se dire « Ah ben oui, on a une sorte de reflet de notre propre vie. » Alors un reflet forcément imagé, forcément un peu déformé, etc. Mais quoi qu'il en soit, on ressent quand même qu'on est en train de partager un univers commun, un mode de vie commune avec les personnes qu'on voit à l'écran. Et cette manière de représenter la société actuelle, ben, ça va être aussi une manière de nous faire prendre conscience de notre propre vie et donc de dire la société, cette fois-ci la société actuelle, quoi. Et c'est une manière de célébrer aussi cette manière de vivre en se disant ben, finalement, on la partage tous et on en est plutôt content. Je pense par exemple à une série comme Atlanta qui nous présente justement le quotidien finalement relativement... Alors, ce serait peut-être aller un peu loin que de dire banal, mais en tout cas, le quotidien d'une personne qui n'a rien d'extraordinaire a priori et qui erre comme ça un peu dans sa vie, qu'on va suivre. Alors évidemment, la plupart d'entre nous n'avons pas la même vie que lui, mais néanmoins, on reconnaît dans sa vie un mode de vie contemporain, donc on quelque part ça reste notre société, quoi. Mais un autre exemple que je pourrais donner aussi, je disais c'était plus ou moins réaliste, je pensais à la série La Sorcière Bien-Aimée, ou c'est Ma Sorcière Bien-Aimée, je sais pas si
je dirais moi. Oui.
Oui, donc dans ce cas-là aussi, quelque part, on a une représentation forcément un petit peu fantasmée, puisque là, en plus, on a un petit élément fantastique qui permet justement ce petit décalage, mais qui nous représente finalement le fonctionnement d'une famille très, très traditionnelle, dans laquelle probablement les téléspectateurs de l'époque pouvaient... un peu se projeter, quoi. Et donc, ça nous disait quelque chose de la société ou au minimum du fantasme de la société de l'époque, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un deuxième cas dans lequel les séries peuvent nous dire la société, cette fois-ci, plus actuelle. Les séries peuvent aussi nous dire la société à travers une forme de métaphore. Alors, ça peut être, par exemple, une série comme Buffy contre les vampires qui va nous présenter une forme de métaphore de ce que c'est que vivre en tant que jeune fille dans une société dans laquelle elle n'a pas forcément sa place, dans laquelle il y a plein d'autres personnes qui en tout cas vont essayer de prendre un avantage sur elle, qui sont les vampires, hein, ceux qui essaient de la dominer. Et donc on nous présente à travers le filtre fantastique une métaphore d'un fonctionnement social actuel, quoi. Ça pourrait être aussi un exemple. On pourrait lire, j'ai l'impression qu'il y a énormément de séries qu'on pourrait lire comme ça, comme des métaphores du fonctionnement actuel. On pourrait lire Game of Thrones comme une métaphore des relations géopolitiques actuelles. Je crois qu'il y en a qui font ça très bien. On pourrait probablement lire The Walking Dead aussi, sur le mode de la métaphore, sur notamment avec tout les différentes étapes par lesquelles passent les personnages. Je sais bien qu'il y a une lecture notamment qui présente ça comme les différentes périodes de l'histoire ou ce genre de choses-là. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la série, il y a toujours moyen de faire une lecture comme ça au second degré où on se demande mais finalement, d'un point de vue métaphorique, qu'est-ce que je pourrais en lire sur le fonctionnement de la société actuelle. Un quatrième mode à travers lequel les séries peuvent nous dire la société, ce serait à travers les comédies. Finalement, en réussissant à nous faire rire, les comédies nous disent déjà la société, quoi, parce que le rire, ben, quelque part, c'est ne fonctionne que en fonction des habitudes, du rapport à la normalité et à l'anormalité du monde actuel, et donc en jouant sur ces questions-là, les comédies sont d'emblée, alors il y a certains types d'humour qui le sont sans doute plus que d'autres, hein. C'est vrai que quand ce sont des comiques de répétition, c'est peut-être moins le cas, mais en tout cas un certain genre d'humour va nous dire énormément sur la société du moment. On peut penser par exemple à la série Friends qui nous dit beaucoup sur ce que c'est à l'époque où la série était diffusée, ce que c'est être un jeune célibataire dans une grande ville comme New York, mais ce que c'est aussi les relations relations entre les jeunes hommes et les jeunes femmes dans ce contexte-là, etc., etc. Ça nous dit des choses sur le couple, sur la féminité, sur la masculinité, sur l'amitié, sur le rapport au travail et à l'ambition. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui passent à travers le biais de l'humour dans les comédies qui peuvent être très intéressantes à décortiquer pour justement voir mais finalement c'est quoi cette société que nous représente soit Friends, soit n'importe quelle autre comédie du même genre. Une autre possibilité aussi, ça va être les séries qui soulèvent certains thèmes, certains débats qui sont particulièrement en phase avec l'époque. Moi, je pensais principalement, par exemple, à la série Law and Order, qui, à chacun de ses épisodes, à travers les cas criminels qu'elle avait à débattre, hein, parce que souvent ça donnait lieu à des débats, notamment au sein du bureau du procureur. Mais c'était l'occasion de voir face à un sujet de société quelles étaient les différentes opinions existantes à ce moment-là et comment on essayait de les résoudre, quoi, hein. Donc là aussi, ça nous disait quelque chose sur la société de ce moment-là. Et enfin, la dernière chose à laquelle j'avais pensé aussi, le dernier mode à travers lequel les séries nous diraient la société, c'est à travers l'expression d'une expérience individuelle. Comment certaines séries... Alors, je pense principalement là à... Principalement, mais pas que d'ailleurs, mais principalement aux dramédies qui sont très forts sur ce mode-là, où on a l'expression de simplement de ce que c'est être un individu, de ce que c'est vivre et essayer de mener sa vie au jour d'aujourd'hui, quoi. Et donc on a quelque chose de finalement très 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 personnel qui s'exprime là. Mais si c'était uniquement personnel, si c'était uniquement monsieur machin ou madame truc qui pour son petit plaisir personnel nous racontait sa propre histoire, probablement que ça n'aurait pas énormément d'intérêt. Ça n'a véritablement d'intérêt que parce que cet individu isolé qui nous raconte son histoire arrive à se connecter finalement à l'expérience individuelle de tous les autres individus qui forment cette société. Et donc, ça nous dit quelque chose également sur la société. Toutes ces expériences individuelles isolées finissent par nous dire quelque chose de la société. Donc, voilà.
Pourquoi tu rigoles comme ça?
Je ne sais pas.
Voilà, mais oui. Beau sujet, bien mené.
Ok.
Moi, j'ai juste un autre mot. Hein. C'est souvent un reflet de la société. On parle ici de description, mais par définition, quand on veut coller à une époque ou à l'actualité, on est obligé d'en être le miroir, finalement.
Oui, oui, c'est ça. C'est l'idée que je développais au début du vraisemblable. Pour que ça nous paraisse vraisemblable, il faut que ce soit quand même un minimum en rapport avec ce qu'on vit au quotidien, sinon on n'y adhérerait pas.
Voilà.
On passe à la musique.
Si tu le veux bien.
Oui, on va s'écouter Charlie Boy, Charlie Boy d'ailleurs des Lumineers, entendu dans Rain.
Charlie Boy, don't go to war. First born in 44. Kennedy made him believe we could do much more. Whoa, whoa, whoa. uniform. You raised a man.
Voilà, de retour pour la dernière partie de l'émission. On va tenter de conclure, Aurore.
Ben oui. Encore une fois, il ne nous reste pas énormément de temps. Mais donc, on va résumer rapidement. Si on se pose la question, comment est-ce que finalement les séries nous racontent la société, on pourrait distinguer deux manières. Une manière plus en nous représentant une sorte de panorama un peu plus collectif, et puis à travers les personnages, les figures individuelles. D'un point de vue collectif, évidemment, on va avoir le traitement thématique, comme je l'avais dit avec, par exemple, American Crime Story, qui nous présentait différents épisodes autour d'un thème particulier. Il va y avoir aussi le traitement plus explicite, où on va parler d'un problème de la société presque face caméra dans certains cas, comme par exemple dans Oz, où certains problèmes autour de la population carcérale sont dits en tant que tels dans la série. Mais évidemment, ça pourrait être le même cas pour une série comme The Wire, où on pourrait penser à bien d'autres séries du même genre. Alors, il y en a beaucoup aussi qui vont davantage opter pour un traitement que je qualifierais de plus intuitif, peut-être, basé sur l'ambiance plus que sur quelque chose de direct et d'explicite. C'est le cas, par exemple, dans Mad Men, quand on nous présente simplement une famille qui va pique-niquer, et donc ça nous paraît tout à fait charmant, et on pourrait avoir cette idée comme ça d'une société plus simple et plus parfaite, un passé un peu idyllique, sauf que après on les voit qui se lèvent, qui enlèvent leur nappe et qui laissent l'entièreté de leurs déchets comme ça dans l'herbe, et tout à coup il y a une sorte de retour à la réalité, quoi, qui nous fait prendre conscience de ce que c'était aussi cette époque-là, dont on n'avait pas forcément conscience dans l'image idyllique qu'on peut s'en faire, mais qui peuvent se ressentir par certaines touches, comme par exemple quand on nous montre une femme enceinte, très bien habillée et tout, on se dit « Ah, les gens étaient quand même plus classe à l'époque », et puis on la voit en train de fumer comme un camion, et là tout à coup, on a une sorte de décalage qui permet une prise de conscience de certaines choses qu'on n'avait peut-être pas auxquelles on n'avait pas pensé a priori, quoi. Donc ça permet comme ça de nous dire aussi d'autres choses sans nous les dire explicitement, mais simplement en nous les faisant ressentir à travers une sorte de choc ou d'intuition. La quatrième manière, ce serait donc le traitement plus métaphorique, comme j'avais donné l'exemple avec Buffy, mais on pourrait donner d'autres exemples aussi, où on, à travers une métaphore, alors ça peut être fantastique, mais c'est pas forcément fantastique. On peut penser, par exemple, qu'une série comme Breaking Bad peut aussi être une forme de fable un peu métaphorique sur les destins individuels dans une société. Dans la société contemporaine. Mais à chaque fois, c'est une manière aussi de nous faire prendre conscience du fonctionnement de la société. Pour ce qui est des personnages et du traitement plus individuel, mais on va avoir un traitement plus expressif, où justement ce sont les individus qui... simplement nous font suivre leur parcours quotidien, leur vie et en s'identifiant, en rentrant en connexion avec ces modes de vie individuels là, mais on prend aussi conscience de ce que c'est que de vivre aujourd'hui. Il y a un mode peut-être plus hypothétique où là c'est pas tellement le quotidien qu'on va suivre, mais c'est plus le mode où on se dit tiens, si on mettait tel individu dans telle situation actuellement, qu'est-ce qu'on en retirerait, quoi, qu'est-ce qu'il deviendrait. Et donc sur ce mode-là aussi, ça peut nous dire des choses de la société, de mettre des individus dans des situations dans lesquelles on n'a pas l'habitude de les voir justement actuellement. Ça va permettre d'explorer certains recoins de la situation actuelle qu'on n'a pas l'habitude de voir au grand jour autrement. À nouveau, si on prend l'exemple de Breaking Bad, c'est un exemple typique puisque on a un individu relativement banal qui est mis dans une situation totalement extraordinaire, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Et ça nous dit justement quelque chose sur le fonctionnement de notre société. Et enfin, la troisième chose, c'est à travers, souviens-toi, j'avais dit une forme de réalisme contemporain où finalement on s'identifie simplement au mode de vie qui nous est présenté, comme dans Ma sorcière bien-aimée, et qui permet de rentrer totalement en connexion avec ce mode de vie-là, et ça nous dit quelque chose aussi de la société. Voilà.
Voilà. Merci. Ce sera déjà le mot de la fin. Un petit bout de musique pour se quitter, peut-être ?
Un petit bout de musique, oui. On va s'écouter La Mer de Charles Trenet, entendu dans The Marvelous Mrs. Maisel.
Merci Aurore. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Je voyais près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.